Cover. Dub.
Cover. Dub.
Pour poursuivre le voyage sonore, rendez-vous sur le site web de l'émission
solenopole.org.
Bon, c'est clair!
Quoi? C'est fini?
Ah oui? T'as aimé?
Je sais pas, je me suis endormi dès le début.
Eh ben, t'as pas raté grand-chose!
Vous avez 5 secondes pour arrêter la demande. 5, 4, 3, 2,
dans l'écriture de son propre destin. Tout à l'heure, à 17h10 TU.
RFI.
RFI 6h, à Paris 4h, temps universel. L'heure d'un nouveau journal. Bonjour Gaëtan Plenet.
Bonjour Paul, bonjour à tous.
Et de deux d'affilée en plus.
Deuxième sacre en Ligue des Champions masculine de football pour le Paris Saint-Germain qui l'a emporté au tir au but face à Arsenal. On revient sur le match dès le début de cette édition. Les Colombiens votent ce dimanche, premier tour de l'élection présidentielle. On va parler des principaux candidats. Un à gauche, deux à droite, voire à l'extrême droite d'ailleurs. On sera ensuite en République démocratique du Congo. Comme le patron de l'OMS, il était à Bunia hier, l'une des villes les plus touchées par l'épidémie d'Ebola. Et puis vous entendrez des Haïtiens très remontés contre un responsable américain qui est venu se réjouir d'une amélioration de la sécurité dans le pays. À Port-au-Prince, on a du mal à partager ce point de vue. Le Paris Saint-Germain, la tête dans les étoiles, et cette fois on peut le dire au pluriel car ça fait deux étoiles, deux sacres européens en Ligue des Champions masculine. Les footballeurs parisiens l'ont emporté hier en finale face à Arsenal et réalisent un doublé puisqu'ils étaient tenants du titre. L'année dernière c'était face à l'Inter Milan que le PSG avait dominé de la tête et des crampons. Et bien cette fois, face aux Gunners, ça a été moins facile, c'est vrai, il a fallu aller au tir au but, mais finalement le club français l'emporte et entre un petit peu plus dans l'histoire de la compétition. À Budapest, où se jouait cette finale, Cédric de Oliveira.
Dans ces moments-là, on oublie tout. La fatigue, ses propres erreurs, celles des autres. Oui, le PSG a vécu un moment compliqué, mais il s'en est sorti. Et l'un de ses tauliers, Vitinha, savoure sa deuxième Ligue des Champions consécutive.
Faire le back-to-back, c'est une fierté. Je pense qu'on a mérité du début à la fin et on est tous heureux.
Pourtant, pendant longtemps, c'est Arsenal qui semblait le mieux placé pour amener la coupe à la maison. Mais ce PSG s'est accroché et c'est sa combativité qui a été récompensée, estime son entraîneur Luis Enrique.
Si j'ai juste toute la saison et toutes les difficultés qu'on a eues dans la Champions League avec mérite clairement de gagner notre 200e Champions League.
La saison a été marquée par les blessures et les doutes. En finale, on n'a pas vu le meilleur PSG qui a tout de même égalisé grâce à Ousmane Dembélé avant de remporter une nouvelle séance de tir au but, sa spécialité. Alors peu importe la manière pour le capitaine Marquinhos.
C'est une saveur différente, je vais être sincère. La première, elle était très émouvante. La deuxième, elle est encore très très belle. Ça reste dans la légende. Je crois qu'il y a quelques années, on va voir ce qu'on a fait. C'était vraiment très beau.
Avec ce doublé, ce PSG est déjà dans l'histoire. 9e club à conserver le trophée. Il imite notamment le Real Madrid, vainqueur de 2016 à 2018. Et les Parisiens ne comptent pas s'arrêter là. L'an prochain, ils partiront en quête d'une 3e étoile. Cédric de Oliveira, Budapest, RFI.
Mais avant de viser encore plus haut, les footballeurs parisiens vont pouvoir fêter ce nouveau sacre avec leurs supporters qui les attendront à leur retour de Budapest dans la capitale française. Présentation du trophée au Champ de Mars cet après-midi. Près de 100 000 personnes attendues et puis direction l'Elysée pour rencontrer le président Emmanuel Macron avant de revenir au Parc de Princes pour une nouvelle célébration avec le public. Des célébrations maintenues malgré des débordements absolument inacceptables. Acceptable cette nuit, selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Près de 300 personnes interpellées à Paris, plus d'une centaine d'autres dans d'autres villes du pays. 7 policiers ont été blessés, l'un grièvement, alors qu'ils étaient plus de 22 000 policiers et gendarmes mobilisés sur l'ensemble du territoire pour assurer la sécurité de cette finale. Une finale sur laquelle on va évidemment revenir tout au long de la matinée sur RFI et notamment dans une édition spéciale. Alors rendez-vous à 8h10, heure de Paris, ce sera avec Clotilde Dumay. Il est 23h03 à Bogota. Les Colombiens vont se coucher avant de voter. Premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche. Le sénateur de gauche Ivan Cepeda est en tête des sondages depuis des mois. Lui qui espère maintenir la gauche au pouvoir, conquis il y a 4 ans par Gustavo Petro, dont il promet d'ailleurs de poursuivre la stratégie de paix totale, c'est-à-dire de négocier avec les groupes armés. Mais en face, il y a la droite, bien décidée à revenir aux affaires, et deux concurrents principaux, la sénatrice Paloma Valencia, et puis l'avocat millionnaire d'extrême droite, Abelardo de la Espriella. C'est ce dernier qui semble plutôt bien parti pour aller au second tour face à Cepeda. Alors qu'est-ce qui les oppose en termes de programme? On a posé la question au professeur Aira Libreros de l'université Externado de Colombie.
Le candidat Ivan Cepeda considère qu'il faut poursuivre et approfondir la stratégie de la paix totale. De son côté, Abelardo de la Espriella considère que le sujet de la sécurité doit redevenir la première priorité des politiques publiques. Leurs programmes s'opposent aussi sur l'économie. Ivan Cepeda, candidat progressiste de la coalition créée par le président sortant, Gustavo Petro, porte une vision très sociale, pas seulement d'un point de vue économique, mais aussi sur le travail ou encore les institutions publiques. En revanche, Abelardo de la Espriella défend une vision beaucoup plus libérale ou même néolibérale et libertarienne. Il considère que l'État ne doit pas intervenir face aux entreprises ou face au secteur privé dans la création de richesses, d'emplois et la protection sociale.
Jairo Libreros, interrogé par Aïda Palaou de la rédaction en espagnol de RFI. Les bureaux de vote ouvriront à 8h, heure locale, et puis ils fermeront à 16h. On vote aussi en Guinée aujourd'hui, élections législatives et communales cette fois, car la présidentielle c'était en décembre dernier, avec la victoire du général Doumbouya, 4 ans après son coup d'État. 147 députés doivent être élus, ainsi que les conseillers communaux dans quelques 375 collectivités locales. L'OMS restera aux côtés de la RDC aussi longtemps qu'il le faudra, dit son patron. Vous n'êtes pas seul, nous traverserons cela ensemble, ajoute Tedros Ghebreyesus. Il est en République démocratique du Congo, frappé par une nouvelle épidémie d'Ebola, plus de 1000 cas suspects, 246 décès probables, une grande partie en Ituri, notamment à Bunia, où c'est justement là qu'était hier le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, aux côtés de plusieurs ministres du gouvernement congolais, pour annoncer des appuis logistiques et sanitaires de la part de l'agence onusienne. Le compte-rendu depuis Kinshasa de Pascal Moulégois.
Pour les patrons de l'OMS, avant la mise au point des vaccins ou des traitements homologués dans les prochains mois, l'appropriation communautaire est ce qui permettra de mettre fin à cette épidémie. Sa vitesse de propagation inquiète la communauté internationale, pourtant certains habitants sont encore plongés dans les dénis. Alors que des restrictions de voyage sont imposées par certains États et que la province de l'Ituri a été isolée par le gouvernement en suspendant tous les vols à destination, les patrons de l'OMS s'est montré fermes.
Et je demande également aux pays qui ont imposé des interdictions de voyager ou des fermetures de frontières de reconsidérer leurs décisions. Ces mesures rendent la riposte plus difficile et elles découragent la transparence et la confiance qui sauvent des vies.
Avec sa capacité logistique renforcée ces dernières heures, Kinshasa, pétri d'expérience avec 16 précédentes épidémies d'Ebola, se veut aussi rassurant. Samuel Roger Kamba, le ministre de la Santé publique.
Nous avons actuellement dans les dépôts tout ce qu'il faut pour couvrir tous les besoins en matériel de protection, en médicaments, en testing. Nous avons maintenant la certitude du nombre des échantillons positifs. Faites-nous confiance, ne fermez pas vos frontières parce que nous savons ce que nous faisons.
Médecins sans frontières a averti que la riposte n'a pas encore rattrapé la propagation du virus 2 semaines après la déclaration officielle de l'épidémie. Jamais auparavant, une épidémie d'Ebola n'avait enregistré autant de cas aussitôt sa déclaration officielle, a affirmé le directeur adjoint des opérations de MSF à l'occasion de cette visite de haut niveau à Ituri. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI.
Une nouvelle proposition américaine d'accord de paix fournie à l'Iran par Donald Trump, c'est ce qu'affirment plusieurs médias américains. Une proposition qui serait plus dure, plus stricte, nous dit-on, mais on ignore sur quels aspects précisément. En tout cas, toujours aucune signature sur un éventuel protocole d'accord qu'on nous annonce pourtant imminent depuis plusieurs jours. Dans une interview accordée à Fox News, le locataire de la Maison-Blanche assure que Téhéran aurait accepté de renoncer à se doter de l'arme nucléaire. Pendant ce temps, au Liban, le Premier ministre dénonce l'escalade dangereuse et sans précédent d'Israël alors que les soldats de l'État hébreu ont franchi le fleuve Litani dans le sud du Liban et que l'armée israélienne annonce il y a quelques minutes étendre son opération terrestre contre le Hezbollah à d'autres zones dans le sud du pays. Nawaf Salam accuse les Israéliens de mener là-bas, je cite, une politique de terre brûlée. Après de nouvelles frappes hier, elles sont quasiment quotidiennes malgré le cessez-le-feu censé être en vigueur. Israël, de son côté, dit avoir repéré plus de 25 drones et roquettes tirés hier depuis le Liban vers son territoire. Israël, qui dans le même temps poursuit sa politique d'occupation en Cisjordanie. Et là-bas, l'autorité palestinienne a de plus en plus de mal à payer ses fonctionnaires, alors que plus de 4 milliards de dollars de ses recettes fiscales sont retenues par l'État hébreu. Conséquence, certains employés palestiniens ne reçoivent désormais que la moitié de leur paye, et encore avec parfois des mois de retard. Forcément, la colère gronde chez les professeurs et les médecins, notamment. Les grèves se multiplient. Alors l'autorité palestinienne a décidé de lancer une application, elle s'appelle Yabou, une une application censée permettre aux fonctionnaires de payer leurs factures d'eau, d'électricité et de téléphone aussi. Explication à Ramallah d'Amira Souilem.
L'application Yabous, présentée comme novatrice par l'autorité palestinienne, suscite des questionnements chez les 170 000 fonctionnaires palestiniens. Mouayed Aafen est économiste.
Il s'agit d'un porte-monnaie numérique. Il ne s'agit pas d'argent en cash. Prenons l'exemple d'un professeur ou d'un médecin qui s'appellerait Ahmed. Eh bien, Ahmed, au lieu de puiser dans son salaire de 2000 shekels de quoi payer sa facture d'eau ou d'électricité, il va s'en acquitter grâce au porte-monnaie virtuel qui s'appelle Yabous.
L'autorité palestinienne payera-t-elle bien ensuite les fournisseurs d'eau et d'électricité ou va-t-elle seulement déplacer le problème ? Les semaines qui viendront le diront. En attendant, aujourd'hui, ce sont 2/3 des revenus palestiniens qui sont aux mains d'Israël, selon Estafan Seleme, le ministre palestinien de la coopération internationale. Mouayed Aafen juge cette situation intenable.
Yabous, c'est une des mesures que le ministère des Finances met en place pour essayer de faire face à la crise étouffante à laquelle nous faisons face depuis environ 5 ans et demi. La crise des salaires des fonctionnaires date d'avant même le 7 octobre, d'avant l'arrivée au pouvoir du gouvernement israélien actuel et de Smotrich.
Les arriérés de paiement qui s'accumulent mettent désormais en danger l'autorité palestinienne qui fait face à une crise de crédibilité grandissante au sein de la population palestinienne. Amira Souilem, Ramallah, RFI.
Et c'est une visite qui fait beaucoup parler en Haïti. Elle a eu lieu vendredi. Le vice-secrétaire d'État américain Christopher Lando a rencontré le Premier ministre haïtien Alex Didier Fils-Aimé et il a salué ce qu'il qualifie de progrès réalisé sur le plan sécuritaire en Haïti. Alors ça, c'est pour la vision américaine. Sauf que les habitants de Port-au-Prince, eux, n'ont pas franchement le même avis. Reportage de Peterson Luxama.
Les déclarations du vice-secrétaire d'État américain n'ont pas tardé à faire réagir. Colson Anglade, jeune militant politique, croisé à Delma, peine à comprendre l'optimisme affiché par le responsable américain.
C'est une visite sur fond de propagande et de lobbying. Le vice-secrétaire d'État américain affirme avoir constaté des avancées sur le plan sécuritaire, mais lorsque nous observons ce qui se passe réellement sur le terrain, c'est le jour et la nuit entre son discours et la réalité.
Et ce ne sont pas ses passants rencontrés dans les rues de Pétionville qui diront le contraire.
Peut-être que le vice-secrétaire d'État américain parle d'une autre Haïti, pas celle où je vis. Au moment même où il évoque des progrès sur le plan sécuritaire, 3 policiers ont été tués dans l'Artibonite par des gangs armés. Franchement, moi je crois qu'ils ne font que nous tourner en dérision.
Moi je pense qu'il ne mesure pas réellement la situation. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne peut pas affirmer qu'il y a eu des avancées sur le plan sécuritaire alors que la situation demeure aussi préoccupante. À ma connaissance, aucune grande ville, aucune commune ou zone qui était sous le contrôle des gangs, n'a véritablement été reprise et sécurisée par les autorités.
Les groupes armés restent en effet très actifs dans plusieurs régions du pays. Une réalité bien loin de l'optimisme affiché par Washington. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Et puis un mot de basket, Wemby, MVP, Victor Wembanyama désigné meilleur joueur de la finale de la Conférence Ouest avec les San Antonio Spurs. Il a battu le Thunder d'Oklahoma City. Wemby et les siens doivent maintenant affronter les New York Knicks en finale pour tenter de décrocher un premier titre collectif en NBA. Il est 6h13 à Paris.
Gaëtan Plenet.
Le retour de l'actualité africaine dans très exactement 17 minutes. D'ici là, plusieurs chroniques, celle de la défense notamment, pour parler de la rallonge accordée aux armées par le Sénat français, 14 milliards d'euros en plus. La chronique de la biodiversité aussi, on parlera de la ménopause dans le règne animal, une anomalie mais ça existe quand même. Et puis on vous donnera quelques conseils aussi si vous envisagez de vous lancer dans l'expérience de l'expatriation. D'abord, direction l'Allemagne et le petit village de Feldheim, au sud de Berlin. 130 habitants au compteur, une rue principale, un stade, une église, une caserne de pompiers. Bref, aux premiers abords, ça ressemble à un hameau comme il en existe beaucoup d'autres dans cette zone rurale du pays. Et pourtant, Feldheim attire des visiteurs venus du monde entier grâce à une particularité, une vie en autarcie énergétique. Ça fait 16 ans que ça dure. Reportage sur place de Pascal Thibault.
Cette éolienne produit 8 à 9
millions de kilowattheures par an. Ça représente 8 fois les besoins du village. Le reste va dans le réseau. Et ce n'est qu'une seule éolienne.
Effeltheim en compte une cinquantaine au total, ce qui permet au petit village de 130 habitants au sud de Berlin d'alimenter en électricité 50 000 personnes. À ces éoliennes s'ajoutent des panneaux solaires. Quand le vent et le soleil laissent à désirer, une batterie de stockage permet aux habitants de ne pas rester dans le noir ou d'avoir recours au réseau extérieur. D'ailleurs, le village a créé le sien, parallèle à celui d'un fournisseur officiel. Et une installation de biogaz qui fonctionne au purin et aux déchets céréaliers assure le chauffage de la trentaine de foyers. En 2010, Feldheim proclamait son autarcie énergétique. Petra Richter est née dans le village.
Nous avons de la chance d'être un village autosuffisant, connu dans le monde entier. Tous les habitants sont heureux d'avoir cette énergie bon marché et ils sont fiers de leur village.
Comme ses voisins, Petra Richter paye son électricité 12 centimes brut le kilowattheure, soit 2 à 3 fois moins qu'ailleurs en Allemagne. L'explosion des prix après le début de la guerre en Ukraine il y a 4 ans, comme la récente hausse des prix du pétrole, n'affecte pas les habitants de Feldheim, sauf ceux qui n'ont pas de voiture électrique et doivent faire le plein. Feldheim dispose d'un centre d'information qui accueille 3000 visiteurs et experts du monde entier chaque année. L'ex-chancelier Scholz est venu sur place il y a 2 ans. Mais cet exemple reste un cas isolé, comme le souligne Michel Knappe, maire durant un quart de siècle de Treuenbritzen, auquel le hameau de Feldheim est rattaché.
On ne nous a pas pris au sérieux au départ et on nous a laissé faire. Aujourd'hui, un tel projet ne serait plus possible. La technique est là, le soutien de la population également, mais les conditions juridiques ne sont pas réunies. Ça montre bien que cette transition énergétique en Allemagne manque d'ambition.
L'expert Bernd Hirschel souligne également que le modèle allemand a besoin de plus de flexibilité pour que l'exemple de Feldheim fasse école.
Nous avons besoin de règles qui permettent à l'énergie renouvelable d'être utilisée sur place sans qu'un village soit obligé de construire son propre réseau. Feldheim est un projet formidable, mais avec des efforts énormes.
Les habitants profitent en tout cas, eux, d'une électricité bon marché, la mairie de retombées financières positives et l'engagement des villageois à renforcer la cohésion de cette petite commune rurale. Pascal Thibault, Feldheim, RFI.
Un reportage à retrouver sur RFI.fr. En France, le Sénat a proposé cette semaine d'accentuer encore un petit peu plus l'effort budgétaire en faveur des armées. Les députés avaient adopté mi-mai la révision de la loi de programmation militaire avec 36 milliards d'euros supplémentaires voulus par le gouvernement. Mais dans le contexte mondial que l'on connaît, marqué par de nombreuses crises, eh bien les sénateurs ont eux voté en commission une enveloppe de plus, 14 milliards. On en parle dans votre chronique défense avec Franck Alexandre.
Avec cette nouvelle hausse, les sénateurs proposent un pic de dépenses militaires de 450 milliards d'euros à la fin de la décennie, soit 2,7% du PIB. Les urgences capacitaires sont nombreuses, pointe le sénateur Cédric Perrin, membre de la commission défense et des forces armées. Il faut gonfler notamment le format de la marine et celui de l'armée de l'air, dont les forces sont aujourd'hui très sollicitées.
On a amendé le tableau capacitaire pour répondre en quelque sorte d'abord à la demande qu'avait faite à l'époque le ministre des Armées en février 2025, lorsqu'il disait qu'il manquait une trentaine de rafales, 3 frégates et du matériel terrestre. Et donc le tableau annexe a été modifié avec 20 rafales air supplémentaires et 10 rafales marines, 3 frégates. Il y a aussi évidemment des amendements sur l'aéroballistique à 1000 km et qui pourraient être utilisés par les 3 armes, terre, mer et air, avec évidemment des demandes qui sont importantes. On a des sujets sur les drones navals, sur les drones furtifs également. Étant entendu que tout ça ne sera pas forcément livré tout de suite, c'est bien évident. L'idée c'est aussi de cranter des commandes, de cranter des objectifs et de ne pas perdre de temps, puisqu'à force de repousser au calendrier grec un certain nombre de commandes, et bien évidemment on perd du temps et on est livré très tardivement. On se bat pour une LPM sincère, surtout une LPM de cohérence avec les menaces auxquelles l'exécutif nous prépare depuis maintenant un certain temps.
À plusieurs reprises déjà, l'état-major des armées a alerté sur un risque de conflit avec la Russie d'ici 3 ou 4 ans. Mais le vote du Sénat ne présente qu'une trajectoire indicative. C'est un signalement stratégique budgétaire pour donner beaucoup plus d'ambition à une loi de programmation militaire jugée insuffisante à l'égard de la menace, insiste Cédric Perrin.
Je pense que c'est une question de priorité qu'on doit se donner. Aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement complexe où on a envoyé des précurseurs au Groenland, on a ensuite envoyé notre groupe aéronaval à Chypre. On est en situation extrêmement complexe dans le détroit d'Ormuz. L'Ukraine étant elle aussi en difficulté. Les théâtres d'opérations se multiplient et je crois qu'il faut que nous soyons prêts. Et donc c'est une sorte de priorité qu'on doit se donner. Aujourd'hui, pour moi en tout cas, la question de la défense est une priorité absolue. Et puis, on a besoin aussi, dans le cadre du débat pour l'élection présidentielle, de débattre de ces sujets. Or, je rappelle quand même que pour toutes les élections présidentielles qui se sont déroulées ces 15 dernières années, il n'y a pas eu de débat sur les questions de défense. Et je pense que fondamentalement, aujourd'hui, c'est un sujet qui doit être débattu. Et je pense aussi fondamentalement que nous sommes observés par nos adversaires potentiels, des adversaires qui regardent ce que nous faisons et ce que nous votons.
Reste que les investissements réels pour les armées sont votés chaque année dans le projet de loi de finances. La supermarge de 50 milliards d'euros d'ici 2030 souhaitée par le Sénat sera donc potentiellement adoptée, mais ce sera après l'élection présidentielle.
Cette ligne de défense avec Franck Alexandre. Il est 6h20 à Paris. Celui qui est aimé par sa mère sera un conquistador. C'est signé Freud et c'est de bon ton de le dire aujourd'hui, dimanche 31 mai. C'est la fête des mères, justement. Des mères qui, un jour, ne peuvent plus l'être à nouveau. C'est ce qu'on appelle la ménopause et c'est une chose très humaine, très rare dans le monde animal, presque une anomalie. Il n'existe que 5 espèces de cétacés qui peuvent continuer à vivre sans plus pouvoir se reproduire. Alors, rediffusion d'une chronique de la biodiversité consacrée à ce sujet avec Florent Guignard.
Oui, c'est une nouvelle vie qui commence pour les femmes autour de la cinquantaine, quand elles ne sont plus capables de donner la vie, mais qu'il leur reste encore beaucoup à vivre. C'est ce qu'on appelle la ménopause. Mama, it's menopause. No more children can be bred. Eh bien, les femmes ne sont pas complètement seules. Il y a 5000 espèces de mammifères sur la planète et 5 connaissent la ménopause. Alors pas les primates, pourtant nos cousins les plus proches, non. Mais des mammifères marins, des cétacés, des baleines à dents comme les orques et les bélugas. Les orques sont fertiles jusqu'à 40 ans et peuvent vivre 90 ans, à peu près comme les femmes. Mais arrêter de se reproduire, c'est une anomalie dans le monde animal où il s'agit d'abord de perpétuer son espèce. Sauf s'il y a des avantages.